Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
PIB, ce sont trois lettres qui disent tout, en tout cas beaucoup de choses, mais peut-être pas l'essentiel. En seconde, M. Pierre Massé, mon prof d'économie à Brest, à qui je dois beaucoup, m'avait appris que le PIB est un indicateur qui permet de mesurer la production de richesses dans un pays, ce que produisent les gens, mais aussi les entreprises et les administrations publiques qui résident dans un territoire. Cette année, le PIB de la France pourrait chuter de près de 9% selon les projections de la Banque de France. Mais sachez que l'important, c'est d'être heureux.
Écoute ce que je vais te dire, mon petit bonhomme. Tout ce que tu as à savoir, c'est que...
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux.
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et aujourd'hui, on va se demander à quoi sert encore le PIB. Et désolé de vous avoir mis la chanson dans la tête, mais ça fait du bien.
Il faut se satisfaire du nécessaire.
Deux chiffres, le PIB, le produit intérieur brut, recule de 5,8% et la consommation des ménages dévisse de plus de 17%.
C'est un effet du coronavirus. Au premier trimestre 2020, le PIB de la France a chuté de près de 6%, comme on l'entend ici sur Europe 1. Et encore, ce n'est rien à côté de la baisse du deuxième trimestre, moins 13,8%. Dans une économie paralysée pendant des semaines par le confinement, les consommateurs ont bloqué. Plus de tourniquettes pour faire la vinaigrette ou d'aérateurs pour bouffer les odeurs, ni drap qui chauffe, ni pistolet à gaufres et encore moins d'armoires à cuillères de cire godasse ou de repasse-limace. Dans sa complainte du progrès, Boris Vian regrettait ce temps où pour faire la cour, il suffisait de parler d'amour, sans penser à remplir ses placards d'un tas d'ustensiles. La consommation marchande contre l'amour, c'est un peu l'idée derrière le PIB, le produit intérieur brut. Comme lors de la crise de 2009, certains s'interrogent aujourd'hui sur la pertinence de cet indicateur pour mesurer la richesse d'une nation. La crise du Covid-19 marquera-t-elle la fin du PIB roi, nonagénaire fragilisé ? Avant de répondre à la question, je vous propose de commencer par le début. Et aux Échos, dès lors que l'on parle d'histoire et de sciences économiques, le mieux est de se diriger vers Jean-Marc Vittori, notamment pour répondre à cette question en apparence simple. C'est quoi le PIB et à quoi sert-il ?
Le PIB, c'est l'ensemble des richesses produites dans un pays pendant une année. Cette richesse, elle peut être évaluée de différentes manières. Elle peut être évaluée par la production, ce qui a été produit dans le pays. Elle peut être évaluée par les revenus. Elle peut aussi être évaluée par les dépenses. Et normalement, ces trois chiffres sont identiques.
Alors, c'est un indice qui a été créé en 1930, on y reviendra. Mais avant, vous en parlez dans un article des Échos Week-end, il y a eu des précurseurs.
À partir du XVIIe siècle, on a effectivement cherché à évaluer cette richesse nationale. Et ça n'est pas un hasard. Au XVIIe siècle, c'est à ce moment-là qu'ont été signés les traités de Westphalie, qui fonde en fait le cadre de la nation moderne. Et à partir du moment où ce cadre est fixé, eh bien, les pays cherchent à mesurer leur force, leur puissance. C'est les Anglais qui commencent, mais qui veulent montrer qu'ils sont plus gros que les Français. Et les Français répondent à leur tour, et les Néerlandais aussi sont dans la bataille. Chacun essaie de mesurer sa richesse pour montrer qu'il est le plus riche.
Je suis plus riche que vous.
La richesse des nations d'Adam Smith, un classique des sciences sociales publié en 1776. Mais Jean-Marc, le philosophe écossais a eu des précurseurs, dont un certain William Petty.
William Petty, c'est un personnage extraordinaire. Tout jeune, il apprend le latin, le grec, mais comme il est issu de milieux pas très favorisés, son père est tailleur, il peut pas aspirer à faire des études, il part sur un bateau, il s'engage, il a envie de voir le monde, il se casse une jambe sur le bateau, il est débarqué sur la côte française, du côté de Caen, des jésuites le récupèrent, repèrent qu'il est particulièrement doué, le forment, Il va ensuite en Hollande et puis il revient en Angleterre où il devient médecin. Il accompagne Cromwell et Cromwell, après avoir conquis l'Irlande, lui demande de partager le pays pour en donner un bout à chacun de ses principaux appuis militaires dans cette bataille. Et à partir de ce moment-là, William Petty commence à compter. Il commence à compter l'Irlande et puis ensuite il compte l'Angleterre avec notamment l'idée de mesurer le revenu annuel du pays pour savoir tout simplement comment le taxer. William Petty aborde la richesse nationale par le versant revenu. Et donc, il évalue la population et puis il évalue le revenu par tête et il multiplie l'un par l'autre pour dire, voilà, la production de revenus de l'Angleterre, c'est 40 millions de livres et donc on peut taxer 40 millions de livres. Un peu moins d'un siècle plus tard, un autre médecin français, celui-là, François Quesnay, a une autre approche. Il cherche à évaluer la production. Et pour lui, la production, elle n'est qu'agricole. Parce que tout le reste, ça n'est que de la transformation. Quand vous êtes un forgeron, vous transformez du métal, mais vous ne le produisez pas. L'agriculture, elle fait de la reproduction. Vous plantez un grain de blé, vous pouvez en récupérer cinq. Il y a bien donc un accroissement de richesse. Et François Quesnay forme un cadre très cohérent de production. Regardons ce qui passe d'un groupe de la population à un autre. Mais en fondant toute son analyse sur la production agricole, la production ne peut être qu'agricole à ses yeux. Alors que pour William Petty, la production, elle était agricole, elle était industrielle, elle était aussi commerciale. On retrouve là une opposition peut-être assez classique entre la France et nos amis britanniques.
Jean-Marc, Adam Smith va réconcilier tout le monde ?
Adam Smith, il a rencontré François Quesnay, il réfléchit beaucoup à l'économie, il est considéré comme le fondateur de la science économique et de l'économie politique. Et alors lui, il définit vraiment la production. Dans la première phrase de son livre « La richesse des nations », il dit que c'est le produit annuel d'un pays. Et donc, on a ce qui est devenu le PIB. Et puis, il dit « c'est intéressant non seulement de voir la richesse, mais de voir aussi comment elle évolue, comment elle peut grandir, comment on peut faire ce qu'on appelle aujourd'hui des gains de productivité ». Et donc, Adam Smith fonde en fait le cadre dans lequel nous continuons de réfléchir aujourd'hui. Il est essentiel de savoir quelle est la production, quelle est la richesse produite dans un pays pendant une année, c'est le PIB, et puis de voir comment cette richesse évolue, et ça, c'est évidemment la croissance.
Dans l'article que vous avez écrit pour les Éco-Weekends, Jean-Marc, vous distinguez deux classes, les productifs et les stériles.
Pour Adam Smith, tous les gens qui donnent des services, à part le commerce, forment effectivement une classe stérile. Et il en dresse une longue liste parmi lesquelles il y a les religieux, ce qui était audacieux à l'époque, tout ce qui est enseignant, et puis les jongleurs, les artistes de rue, tous ces gens-là forment pour lui une classe stérile, c'est-à-dire une classe qui ne produit pas. C'est ainsi que Adam Smith voit la production au XVIIIe siècle.
Les journalistes en feraient partie ?
Les journalistes dans la liste d'Adam Smith seraient évidemment dans la classe stérile.
Ça, c'est parce qu'il ne connaissait pas Willy, l'homme qui monte plus vite que son ombre. Blague à part, revenons à l'année 1930. Cette année-là, des scientifiques découvrent Pluton. Les acteurs Sean Connery, Clint Eastwood et Steve McQueen voient le jour. Mais l'on assiste aussi à une autre naissance, celle du PIB. Qu'est-ce qui a motivé sa création, Jean-Marc ?
En 1929, Wall Street s'effondre et la production va s'effondrer aussi dans tous les grands pays industrialisés de l'époque. Et donc, il faut agir, il faut faire quelque chose. Mais pour faire quelque chose, il faut savoir ce qui se passe dans la production. Et donc, dès 1930, les États-Unis et aussi le Royaume-Uni lancent des dispositifs d'évaluation de la production pour comprendre où ça baisse et ensuite comment il faut agir. Les États sont devenus plus puissants depuis la Première Guerre mondiale, puisque cette Première Guerre a été une guerre industrielle. Il a fallu dépenser énormément d'argent, beaucoup plus que dans les conflits précédents. Et donc, le poids de l'État a beaucoup augmenté à cette période. Ça ne peut plus être laissé simplement à des travaux de coin de table. Il faut avoir un cadre précis, une évaluation de la nation, de sa capacité productive, aussi de la base sur laquelle peuvent être taxés les contribuables. On en revient toujours à cette idée. Et donc, à ce moment-là, on lance des grands programmes pour évaluer cette richesse.
En 1932, Simon Kuznets calcule pour la première fois le PIB des États-Unis. Il constate alors que le total des revenus a chuté de 40% depuis 1929 à 49 milliards de dollars. Il en exclut notamment le travail domestique, le travail au noir et le trafic de drogue. 90 ans plus tard, le PIB américain dépasse les 20 000 milliards de dollars. Le bébé a bien grandi, mais comment cet indicateur
est-il devenu la statistique dominante dans le monde au cours du XXe siècle ?
Le PIB, sous sa forme actuelle, a été créé aux États-Unis par des Américains à un moment où le pays était de très loin la première puissance mondiale. Après-guerre, les États-Unis ont demandé aux pays auxquels ils voulaient donner l'aide Marshall, ce qu'on appelait le plan Marshall, c'est-à-dire des dons et des prêts d'argent, notamment aux pays européens, pour les aider à se reconstruire, eh bien, les Américains ont exigé d'avoir une base sur laquelle distribuer cet argent. Et donc, ils ont exigé que les pays européens forgent à leur tour leurs comptes nationaux. Et puis, les institutions mondiales, le FMI, la Banque mondiale, ont eu besoin de ces données et donc ont aussi demandé aux pays de forger des outils statistiques pour évaluer leur PIB.
Est-ce que ça a été aussi un des éléments de la comparaison, voire de la compétition entre les États ?
Quand il y a eu les premières tentatives d'évaluer le revenu national ou la richesse du pays au XVIIe siècle, il y avait déjà en tête cette idée de faire la comparaison entre pays, de montrer que l'Angleterre était plus puissante que la France ou que les Pays-Bas. Aujourd'hui encore, les comparaisons de PIB entre pays sont suivies de très près. Les Français regardent si les Britanniques sont devant eux ou derrière eux depuis maintenant 3 siècles, et c'est le cas pour beaucoup d'autres pays. À l'échelle internationale, on guette aussi le moment où le PIB de la Chine va devenir supérieur au PIB des États-Unis. C'est déjà le cas selon certaines mesures, pas selon d'autres. Donc le PIB, c'est aussi une volonté d'afficher une puissance économique.
Parmi les créateurs, les initiateurs, plusieurs ont été récompensés par des prix Nobel. Ça peut expliquer aussi la longévité du PIB ?
Ça marche plutôt dans l'autre sens. J'ai été frappé en travaillant sur l'histoire du PIB de voir le nombre d'économistes distingués par le prix Nobel qui ont été associés d'une manière ou d'une autre à son élaboration ou à son interprétation. Et je pense que c'est parce que la mesure de la richesse d'un pays, c'est quelque chose de très important. Et beaucoup de chercheurs ont contribué à cette fabrication, à cette conception. Et donc, ça n'est pas très étonnant, au fond, que certains d'entre eux aient été distingués par le prix Nobel. C'est simplement l'importance de cette mesure que l'on retrouve dans le nombre de prix Nobel qui ont travaillé dessus.
Au deuxième trimestre, le PIB a plongé de 20% au Royaume-Uni, de près de 14% en France. Donc, on voit une dégradation très nette de la richesse du pays. Et dans le même temps, pendant le confinement, on voit que les Français ont accumulé 100 milliards de réserve d'épargne, ça peut paraître complètement aberrant.
C'est tout l'intérêt du PIB, ou plutôt de son mode de calcul, qu'on appelle la comptabilité nationale, que justement de rendre cohérent ces chiffres, d'expliquer pourquoi, quand il y a une très forte baisse de la production, il peut y avoir un maintien des revenus et la constitution d'une forte épargne, parce que les États ont distribué de l'argent et que, symétriquement, ils se sont endettés. Voilà. Tout le cadre de la comptabilité nationale permet justement d'analyser ce qui se passe et de le comprendre. Il est donc tout à fait précieux pour ça.
La critique du PIB n'est pas nouvelle. Pourquoi est-ce qu'elle revient en force aujourd'hui ?
Deux grandes raisons expliquent à mes yeux ces critiques croissantes et fondées sur le PIB. La première, c'est la question écologique. Quand on produit de plus en plus, on émet de plus en plus de CO2. C'est du moins ce qui s'est passé pendant des décennies. Ce CO2, en s'accumulant dans l'atmosphère, crée des effets indésirables, un réchauffement climatique qui peut mettre la planète elle-même en danger. Et ça n'apparaît nulle part dans le PIB, de même que n'apparaît pas le pétrole qu'on sort du sol, n'apparaissent pas les gaz à effet de serre émis par la combustion de ce pétrole. Et donc tout ça ne peut pas durer. Le PIB nous dit ce qu'on peut faire aujourd'hui, il ne nous dit absolument pas si on pourra continuer à le faire. Donc ça, c'est la première famille de critiques. La deuxième question majeure sur le PIB est une question sociale, c'est celle des inégalités. Le PIB est une mesure globale, elle mesure la richesse d'un pays, et pendant très longtemps, la richesse d'un pays et celle de ses habitants évoluaient un peu de la même manière. Et puis, dans le monde d'aujourd'hui, de plus en plus apparaissent des inégalités, apparaissent des évolutions différenciées de revenus. Et donc, quand le PIB augmente, le revenu peut augmenter très fortement pour certains habitants du pays où ce PIB augmente. Et puis, pour d'autres, il peut stagner, voire baisser. Et donc, on voit bien qu'une mesure globale, qui se résume en un seul chiffre, ce qui est extrêmement commode, est aussi une mesure parcellaire dans un monde qui devient de plus en plus dispersé.
Le PIB, un indicateur imparfait. En 2009, au lendemain de la crise financière, la commission Stiglitz, qui porte le nom du prix Nobel qui la préside, remet un rapport pour mesurer les performances et le progrès social. Elle a été initiée par Nicolas Sarkozy. Ses auteurs concluent notamment de la nécessité d'améliorer la façon de le calculer, mais aussi d'y intégrer la notion de bien-être. Sur les conseils de Jean-Marc, j'ai appelé l'économiste Jean-Paul Fitoussi, ancien membre de la commission. Il travaille depuis 12 ans sur la question.
Le PIB n'est pas à rejeter. Le PIB nous donne des indications utiles, mais on en sait les défauts de construction. Les défauts de construction du PIB tiennent à ce que les mesures sont parfois non robustes, parfois non représentatives, et parfois non prise en compte. Alors, revenons sur chacun de ces points. Par exemple, comment mesure-t-on la production d'éducation ? On mesure la production d'éducation par les dépenses d'éducation, comme les tests qui sont faits sur les lycéens le montrent abondamment. La dépense d'éducation n'est pas nécessairement reliée à la qualité de l'éducation. Et donc, il faut trouver une façon meilleure de mesurer la production d'éducation que la dépense d'éducation. Deuxième exemple, la dépense de santé. Mesure la production de santé. Alors, le pays où la dépense de santé est le plus élevée, ce sont les États-Unis, 17%. Pourtant, on ne peut pas dire que la production de santé aux États-Unis soit la meilleure du monde, loin de là. Elle est très basse dans la hiérarchie des systèmes de santé des pays développés, et même parfois de certains pays en développement. Donc il y a des problèmes dans la mesure que nous fournit le PIB en tant que mesure de la production marchande qu'il convient de résoudre. D'autres problèmes sont évidents. Par exemple, que le PIB ne mesure pas le bien-être est évident lorsque l'on songe que le PIB augmente lorsque le nombre d'accidents de la route augmente, ou que le PIB augmente lorsque la violence dans la société augmente et pousse les gens à s'armer ou à se protéger. Donc tous ces éléments sont des éléments qui sont au contraire susceptibles de réduire le bien-être plutôt que de l'augmenter. S'il est imparfait, autant essayer de corriger les imperfections et de s'en servir comme indicateur, c'est-à-dire un indicateur de la production marchande. Le PIB demeure indispensable du fait de sa relation avec l'emploi. L'emploi dépend du PIB. J'oubliais de vous dire que l'un des problèmes majeurs que pose la comptabilité nationale est que les grandeurs qu'elle mesure sont des moyennes. Et lorsque l'on mesure le revenu, c'est le revenu moyen que l'on mesure. Et ce revenu moyen ne correspond presque jamais au revenu d'une personne. En d'autres termes, personne ne se reconnaît dans une moyenne, surtout dans une situation où les inégalités sont croissantes. Imaginons un taux de croissance de 5%, alors que ce taux de croissance ne bénéficie qu'à 1% de la population et que 99% de la population ne le voit pas.
Une histoire résume assez bien cette imperfection du PIB qui fonctionne par moyenne. Si Bill Gates entre dans un bar, le revenu moyen de tous les consommateurs est automatiquement multiplié par 1000. La remarque est de Xavier Timbaud, économiste à l'OFCE et rapporteur des travaux de la commission Stiglitz. Il ne dit pas grand-chose des inégalités, et c'est aussi l'une des leçons à retenir de la crise des Gilets jaunes en matière de politique publique.
Il y a dans le problème des Gilets jaunes deux choses. La première, c'est que on ne mesure pas le bien-être et donc on ne s'est pas aperçu que la disparition des services publics ou l'éloignement des services publics comme des hôpitaux des communes a créé une diminution très forte du bien-être et une croissance de l'inquiétude des habitants. Si l'hôpital est trop loin, vous êtes moins tranquille que s'il est près. Vous êtes dans une plus grande incertitude que s'il est près. Si l'on supprime le service public de la poste, enfin on le supprime, c'est-à-dire si on le concentre dans des localités qui sont plus loin du domicile qu'elles ne l'étaient avant, alors cela pose des problèmes en termes de transport, et ces transports, au moment même où on veut augmenter la taxe sur, la taxe sur les transports, puisque l'augmentation de la taxe des ailes est une taxe sur les transports. On n'a pas pris compte de tout ça, on n'a pas pris en compte de tous les éléments complexes qui font que le PIB a un effet par lui-même, mais aussi indirectement sur le bien-être des habitants.
La hausse du prix de l'essence, ici, a augmenté le PIB, mais pas le bien-être de la population. De la même façon, le confinement a pu aussi accélérer la chute du PIB, car il y a eu moins d'accidents de voiture et donc moins de réparations. Mais faut-il pour autant remplacer le PIB, Jean-Paul Fitoussi ?
Il faut garder le PIB, on en a besoin, pour comprendre ce qui se passe du côté de la sphère marchande et de la sphère plus généralement, comme la sphère publique, une grande partie de la sphère publique est devenue marchande par les services publics, d'une grande partie de la production, qu'elle soit publique ou privée. C'est un instrument indispensable. On va, à côté, essayer de mesurer le bien-être. Et pour mesurer le bien-être, il y a deux façons de procéder. La première est la mesure subjective du bien-être par des enquêtes, en pensant que les gens savent mieux ce qui leur arrive que les gouvernements, ou bien en réfléchissant évidemment aux déterminants objectifs du bien-être. Les déterminants objectifs du bien-être sont nombreux, mais enfin, on comprend immédiatement lesquels ils sont. La santé est un déterminant objectif du bien-être. Si vous êtes en mauvaise santé, votre bien-être ne peut pas être élevé. Et donc, l'importance des systèmes de santé devient évidente pour ce qui concerne l'effet sur le bien-être des politiques publiques. Deuxièmement, l'emploi. L'emploi est quelque chose d'essentiel pour ne pas se sentir exclu de la société et pour ne pas se sentir exclu aussi de tout ce qui vient avec l'emploi, c'est-à-dire les relations sociales et la consommation. Et l'éducation, évidemment, l'éducation. L'éducation dont on sait qu'en réalité, elle a un effet important sur le capital social des habitants, mais aussi sur la santé. Et il y a une relation entre le niveau d'éducation et la santé des habitants. Quand je parlais du chômage, lorsque l'on prend en compte le bien-être, eh bien, on constate que le coût du chômage est beaucoup plus élevé que la simple perte de revenus du fait du chômage. Beaucoup plus élevé parce que il inclut le coût psychologique, le coût que subissent les chômeurs, le coût familial, parce que le chômage conduit fréquemment au divorce, et le coût en termes de suicide et de maladie qu'implique le chômage. Donc si l'on prend ensemble tous ces coûts, on s'aperçoit que le chômage en termes de bien-être a un effet absolument majeur sur la vie des gens et sur le bien-être des gens. Beaucoup plus que ce qu'en dit la comptabilité nationale.
Oui, on comprend bien pourquoi il faut aller effectivement au-delà du PIB pour bien mesurer le bien-être des Français. Mais est-ce qu'il existe aujourd'hui un indice qui agrège justement cette notion de bien-être et de qualité de vie ?
Agréger, non. On pense qu'il ne faut pas agréger parce que c'est mélanger des choux et des carottes. Il faut avoir plutôt un tableau de bord et se demander chaque fois, lorsque l'on prend une mesure, quel est son effet et sur le PIB et sur le bien-être. Si une mesure augmente le PIB et réduit le bien-être, il faut réfléchir à deux fois avant de la prendre.
Et que dire d'une mesure de fermeture des restaurants qui, à mon sens, réduit à la fois le PIB et le bonheur ? Si je comprends bien, le taux de croissance du PIB, souvent mis en avant, ne saurait être l'alpha et l'oméga des politiques publiques ?
Il y a eu une période où la croissance était revenue en France. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est la période du mandat de Lionel Jospin. La croissance était revenue à un rythme soutenu, de l'ordre de 4% l'an. Et pourtant, Jospin a perdu les élections. Le problème était que cette croissance coïncidait avec une augmentation des inégalités et que, pour beaucoup, le chiffre annoncé était un chiffre mensonger. Parce qu'ils ne voyaient pas la croissance. On leur disait, l'économie française croît, très belle croissance, etc. Et eux n'en percevaient rien. Donc, voilà pourquoi il faut manipuler le PIB avec délicatesse, essayer de réfléchir aux causes de ces variations et surtout aux conséquences de ces variations. Est-ce qu'elles conduisent à une augmentation des inégalités ou à une réduction des inégalités ? Et voilà aussi pourquoi il est essentiel d'avoir des mesures du bien-être pour que les politiques publiques ne tombent pas à côté des objectifs qu'elles poursuivent. Parce que les politiques publiques, en réalité, poursuivent comme objectif l'augmentation du bien-être des populations. Pour l'instant, on a assimilé le PIB au bien-être, mais on vient de voir que ce n'est pas le cas. Donc, il faut qu'un gouvernement sache distinguer entre ce qui affecte le PIB et le bien-être et ce qui n'affecte que le PIB ou et qui affecte le bien-être de façon opposée.
Il faut remettre l'individu au centre de toute analyse, expliquait le rapport. S'il ne connaît pas la situation réelle des ménages, un dirigeant politique est comme un pilote sans boussole. Mais par quoi compléter le PIB ? J'ai aussi posé la question à Jean-Marc Vittori.
Le PIB reste un outil très utile pour les États, pour mesurer, comme depuis 3 siècles, la base de revenus qu'il est possible de taxer. Et ça, on en aura toujours besoin. Le PIB est aussi très utile pour tous ceux qui observent l'économie. Malgré toutes ces imperfections, c'est le chiffre global qui est le plus corrélé avec toute une série d'autres indicateurs, comme l'espérance de vie, comme le niveau d'éducation, comme les émissions de CO2 et aussi le bonheur. Donc, le PIB donne tout de même des informations qui peuvent être utiles. Mais on ne peut pas se contenter du PIB actuel. Il faut absolument progresser dans 2 directions. La première, c'est améliorer le calcul du PIB. Alors, on le fait sans arrêt depuis plusieurs décennies, mais on peut aller plus loin en articulant notamment les flux et les stocks, que ce qui disparaît de la terre, eh bien, on le voit aussi disparaître dans les comptes de la nation et d'une manière ou d'une autre dans le PIB. Ça, c'est la première ligne de progression. La deuxième ligne de progression, c'est qu'il faut absolument le compléter par d'autres indicateurs. Et pour nous, les journalistes, par exemple, c'est plus compliqué parce que ça suppose suivre pas seulement un indicateur, le PIB chaque trimestre qui recule ou qui augmente, mais le mettre en regard d'autres statistiques pour forger une représentation du monde plus large, plus riche et plus proche de la réalité. Le but d'un gouvernement, d'une politique économique, ça n'est pas d'avoir le PIB maximum, le PIB par tête, le plus élevé possible, c'est d'avoir une population qui est la plus heureuse possible. Pendant très longtemps, on ne savait pas mesurer ça, et on s'était contenté du PIB en sachant que c'était un pis-aller. Aujourd'hui, on a de nouvelles techniques qui passent notamment par des sondages et qui permettent de mesurer notre bonheur et de mesurer son évolution. C'est évidemment l'une des pistes sur lesquelles il faudra travailler.
J'ai la télévision, les 2 chaînes, la couleur. J'ai ma voiture et la radio à l'intérieur. Mon logement qui prend tous les jours de la valeur. Et l'espoir de gravir l'échelon supérieur. J'suis heureux.
Comment mesurer le bonheur ? Certains organismes ont imaginé des indices tel l'indice du progrès social, le Better Life Index ou encore l'Happy Planet, qui combine 3 variables, le degré de satisfaction de la vie, l'espérance de vie et l'empreinte écologique par habitant. Jean-Marc, la France est 7e au classement mondial en matière de PIB, au coude à coude avec les Anglais. Comment est-elle classée selon ces indices ?
Alors là, on ne regarde plus le PIB de l'ensemble du pays, on regarde le PIB moyen par tête ou l'indice moyen par habitant. Et donc là, on voit que la France n'est pas toujours très très bien placée. Si on prend l'indice du développement humain qui est calculé par les Nations Unies, la France est 26e. C'est un indice dans lequel il y a le PIB par tête, mais aussi l'espérance de vie et des indicateurs sur la scolarisation. Eh bien, on voit que la France, ça n'est peut-être pas un pays si avancé que ça. Ce sont des informations utiles.
Un dernier mot, Jean-Marc. Est-ce que vous seriez prêt à faire votre valise pour le Bhoutan ?
Ah, le Bhoutan, ce pays où on calcule le bonheur national brut au lieu du produit intérieur brut, ça doit effectivement être intéressant pour voir, intéressant pour regarder, intéressant pour vivre, peut-être.
Et vous savez pourquoi ils sont heureux là-bas ?
Non.
Ils ont beaucoup de Bhoutan-train.
Waouh !
Merci à Jean-Paul Fitoussi, économiste, pour cette explication limpide sur le PIB. Merci une nouvelle fois à Jean-Marc Vittori, éditorialiste à suivre dans les pages des Échos. La story, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.
Hold up. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.